bien, bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM, bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien, bienvenue aujourd'hui pour une émission avec Michele Saporiti.
Bonjour Nathalie,
bonjour Michele.
Comment va-t-on?
Ça va très bien, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors Nathalie Perrin, Michele Saporiti, où est Stéphanie Ronchevski? Elle nous écoute,
elle a
beaucoup de travail,
sûr.
Nos auditeurs savent qu'on est trois animateurs et voilà ce qui permet des roulements. Voilà, cher Michele, on a un grand plaisir aujourd'hui, c'est de parler d'une passion qu'on a, toi et moi, pour la danse. Nos danses respectives, ça on en parlera peut-être un peu un autre jour. Et toi, tu vas commencer aujourd'hui, mais moi, ça sera un autre jour. Et du coup, tu as proposé pour cette émission un invité et on est ravis qu'il soit là. Je te laisse l'annoncer.
Ah oui, merci, chère Nathalie. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Hippolyte Pérez. Bonjour Hippolyte Pérez.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Philosophie au présent.
Merci.
Une émission
en partenariat
avec
le Collège
international
de philosophie. Mais quel beau duo.
Tu as vu, magnifique. Alors cette institution, non-institution, qui a une histoire vraiment remarquable, qui dure toujours.
Hein. Tout à fait. On est toujours là.
On est toujours là.
Voilà.
On résiste.
Depuis autant de temps qu'Aligre FM dans le paysage français.
Exactement.
Magnifique.
Exactement. Alors, j'ai le plaisir d'introduire notre invité aujourd'hui. Alors, Hippolyte Pérez, ancien élève de l'école de ballet de l'Opéra de Paris, des 10 ans à 14 ans. Donc, comme on dit, vous étiez un petit rat.
Un petit rat de l'Opéra, exactement.
Un petit rat de l'Opéra. Alors, et vous êtes le grand producteur de l'émission Au corps du ballet sur France Musique. Et dans cette émission, vous donnez une attention particulière aux grandes figures de l'histoire vivante de la danse. Alors, je mentionne Marius Petitbas, Maurice Béjart, Rudolf Nureyev, Yvette Chauviré, seulement pour donner quelques noms. Une émission qui a un certain succès, il faut vraiment le souligner.
Oui.
Et vous êtes aussi actuellement étudiant à Sciences Po,
oui.
On le dit. Et si j'ai bien compris, pendant le confinement, vous avez créé et publié un livre illustré qui s'appelle « Mon cahier des danses pour le jeune », volume 1 et 2.
Exactement.
Exactement. Donc, on a un peu travaillé.
On a, je vois
peut-être,
ça.
On a bien travaillé, monsieur Hippolyte Pérez. Alors, on commence cette émission sous la danse,
oui.
Chère Nathalie, qui est un élément, on l'a dit pas mal de fois, un peu négligé par la philosophie, n'est-ce
Tout à
pas
fait. On est ici dans une émission qui parle de philosophie, mais une philosophie qui s'intéresse à ce qui est peut-être minoré, hors champ, hein, classiquement, si on pense en tout cas à la métaphysique. Et peut-être une des grandes questions qui nous viendra ici, même si elle n'est pas formulée, mais elle sera en soubassement, qu'est-ce que la danse fait à la philosophie?
Ah bien sûr, bien sûr. Et peut-être aujourd'hui on va découvrir qu'est-ce que la philosophie va faire la danse.
Ah, bon, ça serait, oui. Bon.
On ne sait pas exactement. Mais alors, on commence un peu à danser, philosophiquement. Et alors, je voudrais poser cette question. Hippolyte Pérez, pourquoi la danse dans votre vie et pourquoi encore la danse dans votre vie?
Alors, pourquoi la danse dans ma vie? J'ai commencé à danser quand j'avais 8 ans. C'est ma mère qui est prof de français qui m'a convié à un spectacle organisé par ses élèves. Et dans ce spectacle, il y avait de la danse classique, de la danse contemporaine, du jazz, un peu tous les styles de danse. Et je me souviens que ce qui m'avait le plus plu, c'était la danse classique. Et c'est comme ça que j'ai voulu commencer la danse classique. Mais au même moment, je commençais le violoncelle, donc le solfège, la chorale. J'avais 6 ans à ce moment-là, donc mes parents m'ont dit « Bon, patiente un peu, et puis si jamais dans quelques années tu veux continuer à faire de la danse, on t'inscrira, mais là ça risque de faire beaucoup. » Et puis un an plus tard, je vois le film Billy Elliot avec mes parents. Et là, je leur ai dit « Bah oui, là je veux vraiment faire de la danse. » Et donc, ils m'ont inscrit. Et j'ai commencé la danse classique à 8 ans.
Ah bon, donc 8 ans, danse classique, mais en même temps musique. Si
j'ai fait, mais pas très longtemps, j'ai fait quelques années de violoncelle.
Années de violoncelle, ouais. Ok. Et alors, un enfant, disons, de 8 ans, pour un enfant de 8 ans, qu'est-ce que signifie la danse? Qu'est-ce qu'il y avait là qui vous apportait après à consacrer une partie de votre très jeune vie à cet art magnifique?
Je pense que ce qui plaisait à mes amis au cours de danse comme à moi, c'était de créer un spectacle. C'était de créer quelque chose pour la fin de l'année. C'était que la danse, c'était un travail, mais qui avait une finalité, qui était ce spectacle que l'on allait présenter à la fin de l'année. Et je pense que la danse, c'était simplement un moyen de parvenir à cette présentation de fin d'année, qui était le spectacle.
Bon, on écoute peut-être comme musique de fond, ils sont des cris, des rires des enfants.
Tout à fait, on dirait un reportage sur France Culture, complètement immergé, c'est magnifique.
Et peut-être que quelqu'un est en train de faire de la danse, un cours de danse.
Peut-être, hein, peut-être. Et tout à l'heure on écoutait du violoncelle, je crois.
Exactement.
C'est absolument magnifique.
Exactement.
Dans ces musiques. Oui, j'aimerais peut-être, pour faire connaître Hippolyte Pérez beaucoup mieux, hein, puisqu'on est... Vous êtes là aussi pour nous parler de vous. Vous animez cette émission au cœur du ballet.
Ouais.
Voilà. J'aimerais que... Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu animateur de cette émission, voilà, qui est très écoutée. Et France Musique, c'est une chaîne absolument magnifique pour les mélomanes de tout genre. Il y a comme ça une espèce de continuité entre vous avez fait de la danse, hein, et vous en faites une émission. Et peut-être une seconde question qui viendrait compléter donc votre propre histoire à cette émission qui est née. Quelle est votre philosophie dans Au cœur du ballet? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette émission?
Alors, déjà, comment est-ce que je suis parvenu à faire cette émission? C'est que j'étais en stage à France Musique, j'étais stagiaire à France Musique. Et je faisais des vidéos autour de la danse pendant l'été après mon bac à France Musique. Et puis, à la direction de France Musique, ça les intéressait d'avoir une émission autour de la danse, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque à France Musique. Et donc, un an plus tard, on a décidé de créer cette émission au cœur du ballet tous les vendredis à midi. Donc, c'est vraiment une émission récurrente toutes les semaines.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous débutiez complètement à la radio, finalement.
Ah ben, je débutais complètement. C'est-à-dire que j'ai fait quelques tests. À un moment donné, j'ai fait un direct en remplacement parce que quelqu'un était malade. Mais en effet, j'ai découvert le micro, j'ai découvert la radio, j'ai découvert comment on choisissait la musique. Parce qu'à France Musique, la musique a un sens. On ne peut pas décider.
Tout à fait.
On ne peut pas mettre la musique juste parce qu'elle est jolie. Il faut vraiment qu'elle illustre quelque chose dans le propos. Et donc tout ça, je l'ai appris. Et j'étais complètement novice. Et j'ai appris tout ça. Et je suis encore en train d'apprendre tout ça aujourd'hui à France Musique.
Alors, et c'est marrant d'imaginer que vous faites une émission qui parle de la danse, qui est un art éminemment visuel. Comment faire comprendre et sentir l'intérêt de la danse? Alors, on ne perd pas de vue votre philosophie de Au cœur du ballet. Qu'est-ce qui anime à chaque fois, puisque on le fait ici aussi à Aligre, c'est-à-dire on construit nos émissions. C'est quoi le fil directeur de
Je pense que alors les deux choses se rejoignent de ce que vous disiez. C'est vrai que donc la danse, c'est un art visuel qu'on regarde. Or, à la radio, on ne voit rien. Et donc, moi, je dois m'attacher chaque semaine à tenter de décrire le ballet. Qu'est-ce qu'il se passe sur scène? Quels sont les décors? Quels sont les mouvements des danseurs? Et forcément... ce qu'on imagine n'a rien à voir avec le ballet, mais moi, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus proche possible de la réalité. Et c'est donc ça, moi, ma philosophie au cœur du ballet, c'est d'essayer de reproduire un ballet à la radio à travers mon récit et à travers la musique que je diffuse, puisque malgré tout, on a la chance de pouvoir diffuser la musique à la radio. Ça permet ça. Et donc, moi, je fais un travail de description. Je mets des images sur le ballet qui préexiste et moi j'en fais un deuxième ballet radiophonique en fait.
Oui, Michele.
Ah bah c'est oui, parce que j'étais toujours très fasciné par cette question que tu as posée. À un certain moment, je me rappelle de plusieurs émissions Hippolyte Pérez et il y avait la musique, bien sûr. Donc c'était vraiment créer un imaginaire de la danse, des mouvements par rapport à la musique, parce qu'on ne voit rien, c'est vrai, on ne voit rien. Mais je me rappelle aussi, peut-être c'était dans une de vos dernières émissions, il y avait aussi des danseurs qui ne pouvait pas,
malvoyant, déficient visuel, aveugle, oui.
Ah, ça, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience? Parce que un danseur qui ne peut pas voir, je ne sais pas s'il y a quelque chose comme un musicien qui ne peut écouter. Ce sont des choses différentes. Mais pouvez-nous dire quelque chose
Justement, j'ai fait cette émission sur les danseurs malvoyants. On me dit aussi déficient visuel, aveugle. Parce que je pense que ça a illustré tout le problème de l'émission Au cœur du ballet, de ce problème de décrire quelque chose de visuel par le son. Et donc, ces danseurs malvoyants que j'ai interviewés pour cette émission m'ont expliqué qu'il existait de l'audiodescription pour les ballets. Mmh. Et donc, il y a des ballets, parfois, pour un public de malvoyants, qui sont décrits comme pour les films, ça existe, et bien là, on le fait pendant les spectacles, en live, pour les ballets. Et donc, c'est une expérience qui est totalement différente, puisque, encore une fois, on ne peut qu'imaginer le ballet. En fait, ils font la même chose que dans Cœur du ballet, ils décrivent le ballet. Et ensuite, j'ai découvert qu'il existait aussi des danseurs malvoyants, qui, eux, dansent, mais qui ne peuvent pas se voir danser. Quand on travaille dans une salle de danse, il y a un miroir, et donc, on peut se corriger, on se voit danser. Mais quand on est malvoyant, quand on n'y voit rien, on ne peut que s'imaginer danser, on se sent danser, on s'écoute danser, mais on ne peut pas se voir danser.
Tout à fait, c'est très intéressant.
Exactement. Et donc, du coup, le rapport au corps et le rapport à la chorégraphie est complètement différent. On ne peut pas apprendre une chorégraphie par imitation, puisqu'on ne voit pas le chorégraphe. On peut simplement essayer de comprendre les gestes à l'intérieur de son corps, mais on ne peut pas les reproduire par imitation.
Mais alors, une question que je vous pose. Alors, ce n'est pas un paradoxe, mais c'est quelque chose peut-être un peu de philosophie. Alors, nul comme danseur, je sais, je l'avoue. Ok, alors, on regarde quelqu'un faire une danse. Okay. On essaie de mémoriser, mais quelque chose doit se déposer dans l'imaginaire, non ? Pour que le corps puisse le répéter.
Je ne sais pas exactement. Je pense que ça dépend de la façon dont on réfléchit quand on travaille une chorégraphie. Si on peut mettre des repères techniques à cette chorégraphie, alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'imagination. Si par exemple je sais que cette chorégraphie c'est quelque chose de très classique, que ça va être un enchaînement d'un pas de bourrée, une pirouette, etc. Peut-être que je n'ai pas besoin de voir la chorégraphie pour la faire moi-même, puisque je sais que dans ma tête, et parfois le professeur, quand il donne un enchaînement, il ne le montre pas vraiment, il le mime un peu, il le marque, on dit, et puis il dit voilà, pas de bourrée, fouetter, tout ça. Mais il ne le montre pas. Et donc nous, on crée l'image à partir d'éléments techniques. Parce que simplement, ces repères techniques nous permettent de recréer la chorégraphie. Mais peut-être que si on veut reproduire une chorégraphie qui n'est pas dénuée de technique, mais qui n'a pas de repères, qui n'a pas d'écriture, qui sort complètement des codes habituels de la chorégraphie, il va falloir qu'on essaye soi-même de créer les images. Et parfois, un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va lui donner un autre nom. Peut-être que habituellement, on va dire qu'on lève la jambe. Là, peut-être qu'on va dire que si on doit lever la jambe, violemment, peut-être qu'on va dire qu'on shoot dans un ballon de foot, enfin, qu'on crée de nouvelles images peut-être. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, oui, c'est exactement ça.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Hippolyte Pérez, c'est que effectivement, quand vous parliez de danseurs malvoyants, c'est-à-dire que là, on est au cœur de notre thématique sur la danse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la danse? Bon, alors là, il faudrait peut-être d'abord qu'on vous pose la question, puis on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais ce que vous dites, moi j'ai connu, à titre personnel, je connais une danseuse malvoyante de tango, et c'est extraordinaire comment finalement ça me fait réfléchir moi-même sur le fait que, alors, parce qu'on est en train de parler d'imitation là, comment on apprend par imitation ou pas d'ailleurs, et qu'est-ce que ça veut dire que l'imitation, c'est-à-dire peut-être que la force de la danse, mais là c'est une question collective, c'est précisément de se débarrasser de la puissance unique du visuel. Alors, je ne sais pas, vous êtes danseur, vous avez été un jeune danseur, vous êtes encore danseur. pour moi, la danse, en tout cas, c'est la puissance du corps. Mmh. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée d'utiliser la vue. Je dois d'abord me recentrer en moi-même pour essayer de produire. Alors, dans le tango, qui est une danse d'improvisation, contrairement à ce qu'on croit, je suis obligée de me concentrer sur moi-même, sur mon corps, peut-être une connaissance de mon corps qui ne passerait pas par le visuel. Y a là peut-être quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire,
vous écoutez Allegre FM 93.1.
J'entends bien qu'on peut apprendre par des professeurs quand on danse, mais ce qui m'apparaît être très fort, c'est la connaissance que nous avons de notre corps et peut-être des puissances insoupçonnées de notre corps, non ?
Mais je ne sais pas dans quel sens on fait les choses quand on apprend la danse. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un danseur qui répète un ballet classique va d'abord reproduire.
Oui.
Parce que un ballet de Nourieff, ça se danse de telle manière. Oui, Nourieff a voulu qu'on fasse les arabesques de telle manière, les sauts de telle manière. Et donc, peut-être qu'on va d'abord essayer de faire par imitation avant d'essayer de comprendre son corps et d'essayer de trouver sa propre interprétation. Et quand on apprend la danse, je ne sais pas du tout ce qui vient en premier. Parce qu'à la fois, on apprend de nouveaux mouvements, donc on les fait par imitation, mais à la fois c'est le moment où on se rend compte en même moment que j'essaye de lever la jambe, mais je comprends que ça marche pas, que j'ai pas assez de souplesse. Et donc on comprend en même temps les limites de son corps. Et je pense que les deux sont entremêlés, je pense que les deux viennent en même temps.
Oui, puissance et impuissance du corps, mais en tout cas découverte du corps, découverte de ce corps qu'on a là et expérimentation du corps.
Et essayer d'aller encore plus loin à chaque fois,
tout à fait.
D'aller... explorer les limites de son corps. Là, je parlais de souplesse, mais ça peut être sur les sauts, à quel point il y en a qui sautent très bien, il y en a qui n'arrivent pas à sauter, il y en a qui arrivent à tourner, il y en a qui n'arrivent pas à tourner, il y en a qui arrivent à lever la jambe, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à lever la jambe, et il y en a qui n'arriveront jamais à lever la jambe. Parce que parfois, malgré tout le travail, le corps donne lui-même ses limites de souplesse, de rebond, de pirouette.
Bon, et justement, à ces propos, Hippolyte Pérez, les corps, c'est quoi ? Pour un danseur comme vous?
C'est une question compliquée.
C'est une question qui mais centrale, je crois.
Alors, je ne sais pas si c'est un outil pour arriver à cette fin qui est le spectacle. Alors, ça peut être la fin, ça peut être le spectacle, ça peut être vivre une expérience en dansant, travailler avec un autre danseur. Je ne sais pas si c'est... Moi, je pense que pour moi, c'est un outil... Oui, je pense que c'est un outil qui, justement, en fait, je vais répondre à ma question en réfléchissant, qui permet d'arriver à ce que je veux faire. Et donc, c'est un outil qu'on entretient Oui, c'est ça, un outil, je pense.
C'est un outil, et c'est un outil aussi qu'on écoute.
Oui.
Qu'il faut écouter.
Je pense que sinon, on se blesse.
Oui, parce que ça. Vous étiez en train de parler de la question de la limite, non ? Donc on pousse, on arrive, mais peut-être à un certain moment il faut s'arrêter, je sais pas.
Ben oui, les danseurs se blessent pour plusieurs raisons. Parfois leur corps est trop faible par rapport à la charge de travail qui leur est demandée. Or, il y a des limites temporelles dans la vie du danseur, qu'elles soient à court terme, c'est-à-dire le spectacle qui arrive dans 3 semaines, ou qu'elle soit à long terme, c'est-à-dire la retraite qui arrive à 42 ans.
Oui.
Et on se dit que si on ne travaille pas quand on a 20 ans, à 30 ans, quand on commencera à se rendre compte qu'on commence à avoir des petites faiblesses, un peu plus de douleurs, on ne veut pas regretter de ne pas avoir assez travaillé à 20 ans. Donc on travaille comme un fou à 20 ans, mais à 20 ans, on se blesse. Et pour continuer à danser malgré les blessures, il y en a qui essaient de prendre toutes sortes d'antidouleurs, mais qui ne permettent pas de...
complètement de remplacer
le corps. Il se blesse encore plus, en fait.
Oui, mais c'est à propos de blessures. Je ne sais pas, je ne veux pas être, disons, en délicat, mais est-ce qu'il y a plusieurs typologies de blessures dans une carrière si prestigieuse comme celle qu'on peut avoir dans les codes de l'opéra ? Parce qu'il y a blessures de corps, mais peut-être aussi il y a des blessures, disons, un peu de l'âme, je ne sais pas.
Oui. Je pense que la carrière d'un danseur, elle est comme n'importe quelle carrière, parce que parfois on veut aller plus loin, on peut pas parce que parfois à cause de notre corps justement. En fait, parfois on on met les danseurs vraiment sur un piédestal, comme si leurs blessures, leur vie étaient incroyables, parce qu'il y a le côté artistique, parce qu'ils sont sur scène, parce qu'ils brillent, parce que ce sont des étoiles. Mais en fait, est-ce que leurs blessures psychologiques sont vraiment plus intéressantes que les blessures psychologiques de n'importe quelle autre personne qui exercerait n'importe quelle autre profession? Je sais pas. Par exemple, quand on parle des petits rats de l'opéra, oui, des élèves de l'école de danse, on dit toujours, c'est incroyable, ils travaillent comme des fous. Et moi, j'ai fait partie de ça, hein, mais on peut aussi faire l'autocritique, c'est qu'ils travaillent énormément, c'est incroyable, ils poursuivent leur passion, etc. Et à 18 ans, ils travaillent beaucoup pour rentrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Mais à 18 ans, il y a plein de jeunes qui travaillent beaucoup aussi pour passer beaucoup de concours, pour avoir leurs écoles, et qui parfois ne l'ont pas. Et en fait, moi je pense que parfois, on en fait un petit peu trop sur... On romantise un petit peu la vie des danseurs. Oui, c'est ça, on les romantise, alors qu'en fait, il y a des chemins de vie qui sont tout aussi intéressants, et qui, simplement, ils ne sont pas danseurs, et donc il n'y a pas le côté brillant, paillette, qu'ont les danseurs.
Merci.
Alors, juste une dernière question avant de passer la petite musique intermède. Vous avez créé une association qui s'appelle What Dance Can
Alors,
Do.
Je ne l'ai pas créé.
Ah, c'est alors, moi qui l'ai créé. Voilà, super. Alors, vous allez pouvoir nous parler de cette magnifique association co-créée, ou vous en êtes un des amateurs?
Moi, je suis un élément externe. Alors, donc, d'accord. En fait, What Dance Can Do, c'est une association qui organise des ateliers de danse auprès d'enfants qui évoluent dans des situations socio-économiques compliquées. Parfois, c'est qu'ils sont particulièrement pauvres. Parfois, c'est qu'ils sont dans des foyers parce que ça se passe pas bien dans leur famille. Parfois, c'est qu'ils sont issus de l'immigration et qu'ils sont arrivés en France parfois tout seuls, parfois avec leurs parents. Il y en a, en fait, je les ai rencontrés, donc ils me racontent leurs histoires. Il y en a à qui leurs parents leur a dit « Bah tiens, j'ai une tante, t'as une tante qui vit en banlieue parisienne. Tiens, je t'ai écrit son numéro de téléphone sur un bout de papier, tu vas la rejoindre. » Et les enfants, ils traversent la Méditerranée, parfois seuls. Enfin, c'est des parcours très compliqués. Et ils découvrent la danse grâce à cette association. Et récemment, ils ont créé un spectacle autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles, dans quatre pays. À Bruxelles, à Clichy-sous-Bois, à Londres et à Marrakech. Et ils ont tous créé un spectacle autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles avec des lectures totalement différentes. À Marrakech, c'était Ali au Pays des Merveilles. À Clichy-sous-Bois, c'était la thématique de l'immigration, donc du pays merveilleux, de pourquoi on part d'un pays pour aller dans un autre pays. Et donc, ils ont exploré à travers la danse. Et tous ont créé ce spectacle, et c'est magnifique. Donc j'en ai fait un documentaire qui est sorti le 20 mars.
Félicitations, voilà. Il faut t'inviter au campus Condorcet, oui.
Super.
Ah, super. Et donc c'était un documentaire
Exactement, j'ai fait un documentaire sur ces quatre pays.
Oui.
Ces quatre,
Et il est disponible.
Il est sur YouTube.
YouTube. Ah, magnifique. Ah, super. Alors, comment s'appelle ce documentaire?
Il s'appelle Ali.median.ce.
Ah,
Alice.
Super.
Ah, donc on va le mentionner sur la page de l'émission.
Exactement.
Okay. Comme ça, notre public va regarder.
Avec plaisir.
Tout à fait. Bon, bah alors on fait une petite pause musicale, Michele. On est prêt.
On fait un petit scandale musical.
Un petit scandale musical, absolument.
Mais on dit pas pourquoi.
On garde le suspense. Vous êtes toujours sur Aligre FM, messieurs, dames, 93.1. À tout de suite. Quelle merveille, quelle merveille, mais quelle merveille, nous écoutions le Sacre du printemps, Stravinsky et le grand magnifique Boulez. J'en profite, je salue mon admiration pour un ensemble d'émissions menées notamment par Lionel Esparza sur France Musique, qui s'appelle Pierre Boulez, une vie sur le ring. Messieurs, dames, il faut écouter la radio. Et ces émissions-là sur Pierre Boulez, absolument magnifiques. Bon, pour moi, Pierre Boulez, c'est...
Bah, quelle figure, voilà.
Quelle figure extraordinaire, quelle figure et quel interprète magnifique, magnifique, magnifique.
Oui, oui.
Bien, je te laisse la parole, Michele,
à propos de... Justement, on va faire réagir notre invité, Hippolyte Pérez. Alors, on a bien choisi ce scandale de la musique. C'était pas seulement un scandale de la musique, n'est-ce pas, Hippolyte Pérez?
C'était aussi un scandale chorégraphique.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi, qu'est-ce que tu fais, vous fait penser, pardon, là, ce début du Sacre de printemps, et qu'est-ce que signifie ou qu'est-ce que représente le Sacre de printemps pour un danseur?
Alors déjà, le Sacre du printemps, c'est un ballet auquel les danseurs sont attachés. Principalement dans la version de reconstruction de référence qui est celle de Millicent Hudson et Kenneth Archer, qui a été recréée à partir d'archives, de petits éléments mis bout à bout. On a assez peu de choses en fait, mais aujourd'hui on a recréé un spectacle qui est présentable sur scène, parfois en faisant des choix chorégraphiques qui n'étaient sans doute pas ceux de l'époque, mais on n'a pas le choix, parfois il faut combler des trous. Et aujourd'hui les danseurs sont attachés à cette chorégraphie, il y a plein de danseurs qui, pour lesquels c'est leur ballet préféré, alors que ce n'était pas du tout l'esthétique dans laquelle ils ont baigné depuis qu'ils sont enfants. Parce que c'est très loin d'être un ballet classique. Si vous avez des auditeurs qui n'ont jamais vu le Sacre du printemps, c'est loin du tutu, c'est loin des pointes, c'est totalement hors des carcans du ballet classique. Un exemple très simple, les pieds sont en dedans. Quand on danse la danse classique, les pieds sont en dehors, comme un canard. Et dans le Sacre du printemps, c'est tout l'inverse. Ça, c'est une provocation qui est assez grossière, mais qui est présente sur scène. On danse les pieds en dedans, les genoux pliés qui se touchent. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce scandale à l'époque.
Même en termes de création de costumes, tout à fait.
Ils ont vraiment un scandale tradé, en ce sens-là. Musique inécoutable, il disait, terrible, très rythmique, le pauvre.
Aligre FM 93.1.
Et les costumes étaient prêts. Il y avait une exposition l'année dernière à Paris au Petit Palais. Le Paris ça devait être, je ne sais plus, le Paris de la Belle Époque ou un truc comme ça. Et on voyait les costumes du Sacre du Printemps. Alors, ça devait être des reproductions. Puis il y avait des vrais éléments. C'était très beau à voir. Mais à propos du scandale, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs qui montrent que Diaghilev était Diaghilev, le directeur de la compagnie des ballets russes, c'était un bon businessman. Et qu'en fait, il avait fait en sorte aussi de faire venir des jeunes gens pour mettre un peu la pagaille dans le public, aussi pour qu'on parle de ce spectacle dans le journaux, à quel point le raffut était terrible, pour qu'on en parle dans les journaux, et après, par la suite, avoir de plus en plus de spectateurs.
Oui, alors là aussi, on est bien sur Aligre FM, mais sur France Musique aussi, il y a des émissions avec, au cœur de l'orchestre.
Christian Merlin.
Avec Christian Merlin, le grand Christian Merlin qui raconte, qui a fait des émissions aussi sur Stravinsky, qui raconte aussi le rapport Stravinsky-Diaghilev, très intéressante. Alors, on est un petit peu dans la seconde partie de notre émission. On a consacré toute notre première partie à essayer de connaître votre rapport, Hippolyte Pérez, avec la danse, aussi bien à partir de votre biographie. Et puis on a commencé un peu à esquisser ce que pourrait être la danse. Il faudra qu'on revienne vous embêter avec la question. Alors pour vous, c'est quoi la danse? Mais il va falloir vraiment, on ne lâche pas cette question. On lui laisse le temps à notre invité, elle est dans notre tête. On prépare, vous savez, Hippolyte Pérez, vous savez mieux que nous qu'une émission, ça se prépare, parce que vous présentez au cœur du ballet. Et en préparant, on a nos lectures de cœur. Moi, je propose là à nos auditeurs de lire un passage de Paul Valéry, Philosophie de la danse. Alors, qui est une petite conférence qui avait été écrite à l'occasion du passage à Paris, me semble-t-il, de la danseuse L'Argentina, voilà, qui a un nom, alors c'est son nom de scène, oui. L'Argentine, hein, qui s'appelle en vérité Antonia Mercei Luque, hein, qui était une danseuse et une chorégraphe espagnole, donc je donne ces dates 1890-1936, et ce qui est très touchant dans ce petit livre, alors il faut que je donne la maison d'édition, pardon, ce sont les éditions Alia, hein, c'est cela, oui, Alia. Paul Valéry, c'est très touchant parce que bon, c'est un philosophe et c'est fait partie des très rares philosophes malgré tout qui ont écrit sur la danse et sur leur admiration de la danse, bien que n'étant pas danseur. Et donc cette courageux. Modestie de Paul Valéry disant « je ne danse pas, mais pourtant quand je vois la Argentina, ça me fait penser vraiment à ce que la philosophie manque à ne pas vouloir peut-être danser, je ne sais pas, en tout cas faire danser les mots, faire danser la pensée et en tout cas apprendre presque comme modèle la danse. Alors je lis voilà un extrait et puis on dialogue ou pas d'ailleurs, après tout on n'est pas obligé de dialoguer. Voilà ce qu'écrit Paul Valéry, page 10 hein, de ce Philosophie de la danse. J'entre tout de suite dans mes idées et je vous dis sans autre préparation que la danse, à mon sens, ne se borne pas à être un exercice, un divertissement, un art ornemental et un jeu de société quelquefois. Elle est chose sérieuse et, par certains aspects, chose très vénérable. Toute époque qui a compris le corps humain ou qui a éprouvé du moins le sentiment du mystère de cette organisation, de ses ressources, de ses limites, des combinaisons d'énergie et de sensibilité qu'il contient, a cultivé, vénéré la danse. Alors, la danse et le corps, et qu'est-ce que le corps de la danse ? On a déjà commencé à en parler. Tout à l'heure, Hippolyte Pérez, vous disiez... Le corps pour le danseur, moi je le conçois comme un instrument. Est-ce que, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un pur instrument ? Est-ce que, on a notre petit Aristote de poche en tête, hein, la main comme instrument de l'intelligence. Oui. Évidemment, je n'ai pas votre niveau de danse, hein, Hippolyte Pérez, mais en dansant le tango, j'aimerais parfois, alors peut-être déjà je suis trop intellectuelle, hein, je ne pense pas que je l'ai assez expérimenté, mais je pense que le summum de la danse, c'est quand notre corps pense. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, j'entends parfaitement, vous nous avez dit tout à l'heure que, effectivement, mais vous venez de la danse classique et on voit parfaitement que le danseur classique, c'est une haute technicité, n'est-ce pas ? Est-ce que cette technicité, vous arrivez à la dépasser ? Presque, j'allais dire, de manière inconsciente, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas le corps qui finit par parler ?
Et donc le corps pense, et donc il dans le sens où du coup, il ne pense plus à la technique, c'est ça que
et,
je voulais
et
dire.
Et voilà où finalement, il y a quelque chose de vous qui vous échappe, hein, et où vous n'êtes plus le Hippolyte Pérez.
De la transe presque.
oui, si vous voulez.
Ça, c'est un corps plus.
Si vous voulez parler de la transe, moi ça me va parfaitement, j'aimerais, moi je suis trop rationnel. Ouais. Vous voyez où on veut en venir ?
Oui, je vois.
C'est pour ça qu'on travaille la danse avec vous aujourd'hui, c'est qu'on voudrait défaire cet aspect rationalisant de la subjectivité.
Eh bien, je ne sais pas si c'est possible dans tous les styles de danse.
Bah, magnifique, oui. Ouais.
Dans la danse classique, on contrôle tout. Et ça fait partie de l'origine même de la danse classique. On veut complètement contrôler. Là, c'est contraire à ce que vous dites, en fait.
Oui.
Or, parfois, quand on improvise, quand on fait quelque chose de plus contemporain, ou quand on ne réfléchit pas du tout, et donc on ne sait même pas quel style de danse, on est en train de gigoter, mais en fait, on est en train de danser, et bien là, peut-être, on peut atteindre quelque chose. Et je pense, en tout cas, dans l'improvisation, quand on ne cherche plus, quand on ne décide plus quel mouvement va venir après, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le chemin du cerveau, aux bras, aux jambes, machin. C'est d'abord le bras et ensuite on se rend compte que « Ah bah tiens, mon bras a fait ça. » Là, c'est vrai qu'on... Là, on atteint... Le corps se met à penser lui-même sans utiliser le cerveau. Et là, mais ça, je suis pas sûr que ce soit possible dans la danse classique, à moins que l'on soit sur scène, que l'on connaisse parfaitement sa chorégraphie et que, parce qu'on l'a totalement dans les jambes, eh bien, elle vient toute seule, sans qu'on pense à rien, Et dans ce cas, on peut vraiment profiter du spectacle.
On y Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que bon, vous parlez d'une danse extrêmement technique et rationalisante, et très cadrée. Oui. Et moi, je n'ai aucune histoire, je m'en excuse, des grands danseurs de ballet. Hein, je suis absolument novice. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de technique dans la danse. Je crois que la danse, elle a cet intérêt de d'avoir un rapport à la raison. Mmh. C'est ça qui est très beau.
Rationalité.
Mais en même temps, les grands génies danseurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la rationalité qui échappe? Est-ce qu'un danseur magnifique, on pourrait dire génial, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement dans la technique?
Ça dépend.
Est-ce que vous avez un nom à nous proposer?
Je pense que les trois grands danseurs masculins dont on se rappelle au XXe siècle, c'est Nureyev, Serge Lifar, Nijinsky. Et chacun, ils étaient tous des génies, mais différemment. Parce que si on prend le premier, Nijinsky, lui, il était génial en sortant de la technique, parce qu'il proposait quelque chose de complètement nouveau. Mais c'était aussi un très bon technicien.
Exactement.
Serge Lifar était aussi un très bon technicien. Et pendant de nombreuses années, jusqu'à sa retraite, il a été un très bon technicien. Nureyev a aussi été un très bon technicien, avec les yeux de l'époque. Aujourd'hui, on les regarderait, on serait très déçus. J'ai regardé ce matin des vidéos de Lifar. Forcément, le niveau a vraiment changé depuis quelques décennies. Et en fait, peut-être que c'est aussi une question du... C'est peut-être le public de la danse qui ne sait pas définir ce qui est génial ou pas. Parce que le public de la danse peut-être va dire, lui c'est un génie, parce qu'il correspond parfaitement aux cases de la danse classique, et parce qu'il est virtuose, et parce qu'il sait vraiment faire ce qu'on lui demande, mais toujours dans les limites de la danse classique. Est-ce que c'est vraiment du génie? Pas forcément.
Tout à fait. Est-ce que finalement, la grande force de la danse, je reviens là-dessus, est-ce que c'est pas finalement... ce qu'on appelle en philosophie la force de la désubjectivation? Moi, c'est ça, à titre personnel, qui m'intéresse. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes, on dit « je », on a une personnalité qui a la possibilité, par la danse, d'éclater ou d'exploser. C'est-à-dire vraiment de quelque chose qui s'exprime en dehors de la pure rationalité, en dehors de nous. Est-ce que c'est pas ça le génie d'un danseur? C'est-à-dire... peut-être aussi sa force interprétative.
Mais de toute façon, Nathalie, justement, disait notre invité Hippolyte Pérez, cet élément-là de la technique nous parle beaucoup de la circulation entre un art et l'autre.
Oui.
Je pense à la musique, par exemple. Donc, il y a le génie de la musique, on pense Mozart et tout ça, Boulez. Boulez était un génie de la musique, indéniablement. Il y a un côté technique, et après, il y a quelque chose d'autre. Mais il y a le côté technique qui est fondamental en ce sens-là.
Oui.
Après, bien sûr, on utilise la technique, c'est un peu le corps dont vous parliez. C'est-à-dire, c'est un outil. Il faut peut-être aussi dépasser le simple regard sur l'outil pour arriver à ce que nous considérons comme génialité.
Mais oui, et pour continuer l'exemple, Picasso savait faire aussi des tableaux très académiques.
Bien sûr.
C'est là qu'on va différencier les danseurs, qui peuvent parfois être des exécutants, et auxquels on demande d'être des artistes, alors que parfois ils ne sont que des exécutants, et les chorégraphes qui, eux, sont des artistes. C'est-à-dire que les danseurs peuvent avoir une technique parfaite, être très beaux sur scène, mais est-ce que ce sont eux les génies? Peut-être pas, parce que c'est pas eux qui vont sortir des carcans. Les chorégraphes, qui peut-être seront des moins bons danseurs, eux vont avoir une vision plus globale. Ils ont souvent une plus grande culture, et ils ont vu plus de choses, lu plus de choses, et peut-être que ce sont eux qui vont être les vrais génies. Mais quand on fait un ballet, on a besoin d'exécutants, on a besoin d'ouvriers pour mettre à bien ce grand projet qui est un ballet.
Tout à fait, c'est très intéressant cette différence entre danseur et chorégraphe, effectivement, quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Michele.
Oui, alors je voudrais lire moi aussi, on a encore un peu de temps, un morceau d'un livre que j'ai trouvé tout à fait génial, d'Avelo Kellis, qui s'appelle Philosophie de la danse, Payot, 2025. Alors, il y a un morceau, il y a un passage, page 19, donc je voudrais le lire pour faire réagir Hippolyte Pérez. Alors, l'auteur écrit Dans son sens le plus large, la signification de la danse dérive donc de ce fait qu'elle est simplement un appel concret et intime d'un rythme général. Ce rythme général qui ne marque pas seulement la vie, mais l'univers. Et si l'on peut encore se permettre de nommer ainsi la somme des influences cosmiques qui nous parvient. Hippolyte Pérès, avez-vous jamais aperçu votre essence cosmique quand vous avez dansé ou quand vous parlez de la danse? Est-ce que c'est trop de parler ainsi?
Peut-être. Et qu'est-ce que vous entendez par essence cosmique?
Ah, justement, ouais. Être part de quelque chose qui nous dépasse.
Oui, ok. Là, dans le cas de l'improvisation, par exemple, on parlait tout à l'heure d'improvisation, là, c'est quelque chose qui nous dépasse, puisque on ne se contrôle plus et on accepte de ne plus se contrôler. Il y a des types de danse, des formes de danse, de gaga. C'est très dur, mais avec la musique, et quand on est avec des personnes, alors quand on est tout seul dans sa salle de bain, c'est encore mieux. Oui. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de jugement.
Oui.
Mais quand on est avec des personnes qu'on connaît bien et qui sont dans le même délire, eh bien, je pense qu'on peut atteindre cette, comment vous dites, cosmique.
Essence cosmique.
Voilà. Je pense que c'est possible à travers la danse, mais encore une fois, est-ce que la danse classique est le meilleur moyen d'atteindre cela? Je ne suis pas sûr.
Ouais.
Ou alors la scène le permet. Okay. Ou alors c'est la scène, le côté grisant du public. Qui permet ça.
Je pensais à Pina Bausch, mais oui. Le peu que je connais de Pina Bausch, là, il y a la grande technicité de la danse classique et en même temps, ces exécutants dont vous parliez tout à l'heure doivent aussi produire quelque chose qui peut échapper sur scène.
Mais c'est-à-dire qu'une danseuse dans le Lac des Cygnes, quand elle va penser d'abord à se mettre en ligne, à ce qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, etc., comment est-ce que, en fait, est-ce qu'elle est vraiment artiste à ce moment-là?
Voilà.
Pas sûr.
Artisan ou artiste?
Exactement.
Ah, c'est ça.
Ouais. Tout à fait. Très intéressant. Michele, il faut qu'on tienne le temps.
Le temps, oui.
Nous rappelons que nous sommes bien sûr à Ligre FM, que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Hippolyte Pérès et que là, on va avoir nos petits breaks à nous, faits par Michele, la flânosophie.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Ligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique des philosophies au présent qui s'appelle Flânosophie, la quasi-science du divertissement intellectuel, qui a vu sa naissance dans les locaux de cette radio libre, comme libre est la pensée que la flânosophie est censée exprimer.
Vous écoutez à Ligre FM 93.1.
Et aujourd'hui, chers flânosophes, on poursuit notre voyage dans les temps, sur les temps et à travers les temps, grâce à une action qui unit deux figures d'artistes. Et alors, petite énigme pour des vrais flânosophes, c'est-à-dire pour des curieux et des curieuses. Quelle est l'action qu'un musicien et un danseur partagent constamment? Quel est le geste qui permet aux musiciens et aux danseurs de dialoguer, même de se disputer, toujours de se respecter? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voici notre flânosophie autour de l'acte de compter le temps. Quand nous étions des enfants, ils nous disaient qu'il faut commencer à compter. Après le 1 arrive le 2, après le 2 arrive le 3, et voici qu'on se trouve dans l'univers des chiffres, des mesures, de quantité. Même si on joue à cache-cache, il faut toujours donner le temps aux amis, bien entendu avec les yeux mi-fermés. Hein. Mais si la mesure du temps a fait son entrée depuis longtemps dans nos vies, compter, c'est quoi? Quelle est la différence entre compter des poivrons et compter des instants? Quand j'avais 7 ans, plus ou moins, j'avais posé la même question à mon maître d'école et malheureusement, la réponse n'avait pas été à l'auteur de mes attentes. Nous ne sommes pas maintenant à la saison des poivrons, mais des fraises, m'avait répondu mon maître. Pourquoi tu ne comptes pas les petits points noirs d'une fraise? Alors voici ce que les adultes font souvent au lieu de résoudre un problème. Ils regardent les fraises. Mais laissons les poivrons et les fraises de côté et revenons sur la question, cher flânosophe. Comment expliquer l'acte de compter par rapport au temps et comment la musique et la danse pourrait aider la philosophie à trouver une réponse à tout ça? Compter est l'acte qui permet aux musiciens, aux danseurs de penser l'existence de leur art, de faire ainsi que la musique et la danse soient le geste le plus radical envers cette créature capricieuse et hautaine qui est le temps. Et le temps procède sans jamais revenir ni sur ses pas, ni sur ses erreurs. Mais compter le temps ne représente pas seulement l'acte d'associer à un chiffre, un son, un silence, un pas ou une position. Compter, c'est premièrement discipliner le temps, qui est un vrai cheval noir, indiscipliné et absurde, car il dépasse toute logique de la condition humaine. Si nous réfléchissons bien, le temps n'a pas un début ni une fin. Il ne s'arrête jamais, il ne s'excuse jamais, il nous fait vieillir dans l'illusion qu'il vieillit avec nous. Mais le temps garde toujours une jeunesse sans printemps. Il nous donne l'illusion de parcourir une ligne quand la seule dimension qui lui appartient, écrivait un danseur dont le nom était Nietzsche et le prénom Friedrich, c'est un cercle qui revient et revient constamment. Alors c'est pourquoi les seuls maîtres jamais ignorants pourraient venir à Rancière, et qui sont capables de discipliner cet illusionniste bien habillé qui est le temps, sont justement la musique et la danse. Et même quand un musicien ou danseur improvise, sans compter, ils sont toujours en train de compter, mais d'une façon autre. Ils comptent pour le temps, ils comptent face au temps, qui ne considère jamais personne, qui n'épargne aucune existence. Les musiciens et les danseurs partagent ainsi un destin très engageant. Ils sont les vrais et seuls maîtres de Monsieur Le Temps qui leur donnent comme signe de gratitude la possibilité de lui survivre.
Merci, cher Michele, de cet ouvrage « Philosophie de la danse ». Paul Valéry écrit « Qu'est-ce que le temps, mais qu'est-ce que la danse ? Mais la danse, se dit-il, ce n'est après tout qu'une forme de temps, ce n'est que la création d'une espèce de temps. » Ou d'un temps d'une espèce toute distincte et singulière. On était bien coordonnés.
Ah, on était très bien coordonnés.
La danse, une durée interne, on a un petit peu travaillé là-dessus. Alors avec notre invité Hippolyte Pérès, voilà, on termine, Hippolyte, par quelques questions d'un petit questionnaire pas trop rationnel. On a 3 minutes à tout casser. Alors on en profite pour vous poser des questions. Vous avez interdiction de réfléchir. Alors, pour nous, venant de la philo, c'est super dur. Moi, je ne sais pas répondre aux questions comme ça. Mais alors, on y va. Quel est votre rêve d'enfant ?
Faire des spectacles.
Qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse, vous qui êtes fort jeune ?
De faire des choses.
Quel est votre plus grand espoir ?
J'ai pas réfléchi à la question.
Ouais, super.
Tu ne dois pas. Vous ne devez pas réfléchir.
Okay. Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Ah, je ne sais pas si j'ai un parcours intellectuel multicolore. Je sais peu de choses sur plein de sujets.
Oui, intellectuel veut dire simplement intelligent. Hein. Voilà. Sinon, en fait, on est tous intellectuels, en vérité. Est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous ? Et dans la danse, peut-être ? Dans le ballet ?
Ou dans la vie ?
Dans la vie.
Dans la danse, oui, beaucoup. Sur pourquoi on danse, déjà. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse de pourquoi les gens dansent.
Ouais, magnifique.
Voilà.
Ouais, c'est super. Moi non plus, je ne sais pas. On devait en parler aujourd'hui, oui. Mais ça sera pour une autre fois. Avez-vous des talents cachés ?
Je ne crois pas. Non, je les montre tous.
Quel autre métier auriez-vous voulu faire ? À part celui d'animateur radio, à part celui de... Voilà,
danseur.
Ah. Donc vous ne le ferez pas, ce métier ?
Non.
Voilà. Quelle est la chose la plus irrationnelle à laquelle vous avez déjà pensé ?
La chose la plus irrationnelle à laquelle j'ai déjà pensé ? Bah, faire une émission sur France Musique à 19 ans.
À quel animal associez-vous votre danse ?
Quand je danse, moi ?
Oui. Oui.
Un raton laveur. Je, je bouge un peu partout. Quand je danse et que j'improvise, pour parler d'improvisation, là, je suis c'est complètement des... Ça n'a aucun sens, en fait. Voilà. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Un raton laveur, c'est bien.
Oui, oui. C'est...
je me faufile.
Il est bien sur Terre.
Voilà.
Quel personnage, enfin, dernière question, quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi?
Eh ben, en ce moment, je travaille, j'écris en ce moment des émissions sur Serge Liffard. Et c'était un personnage mystérieux parce qu'à la fois, il était aimé de tous les danseurs, à la fois un petit peu sympathique avec les nazis.
Voilà.
Et à la fois, on ne sait pas s'il voulait protéger l'opéra, protéger sa carrière, protéger ses danseurs. Et donc, peut-être que si on avait l'occasion aujourd'hui de le rencontrer, on pourrait répondre à ses questions.
Super.
Merci beaucoup,
Hippolyte Pérès, d'être venu aujourd'hui avec nous.
C'est un plaisir, merci.
Voilà, on invite nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas à écouter votre émission.
Au cœur du ballet.
Voilà.
France Musique,
voilà, grande chaîne. Comme à Ligre FM 93.1, nous étions ici, une des dernières radios libres de France. Merci beaucoup, Michele.
Merci beaucoup, Michele.
Saporiti, merci.
On remercie
la technique. Pierre Nigon et Armand Gury aujourd'hui nous ont fait l'amabilité de nous aider à mettre en forme cette émission. Merci à tous nos auditeurs et à très bientôt.
Merci
Hippolyte Pérès. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.
Écoutez Aligre FM 93.1.